8h48, Valérie Beaudoin est avec nous. Je vous rappelle qu'elle est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Valérie.
Bonjour Mathieu.
Ça a été une autre grosse semaine à Washington, c'est un euphémisme.
Il y en a beaucoup de grosses semaines.
Parlons de Donald Trump. Ça a commencé drôlement, puis on peut pas dire que c'est de l'acharnement. Il lui-même sème cette espèce de vent sur lui qui souffle. Là, drôle de parallèle, là, mauvais jeu de mots avec ce qui a été question. Il parle de la gestion de l'ouragan Maria à Porto Rico. Il dit A plus comme note. Puis c'est pas vrai qu'il y a eu 3000 morts.
Exactement. Au même moment où il y a un ouragan qui souffle sur les États-Unis encore. Alors, dans un drôle de timing, on dirait.
Puis il faut le dire, Valérie, parce qu'au départ, il avait été plus présidentiel aussi, parce qu'il disait aux gens, on sait que c'est une grosse bête qui s'en vient, on demande aux gens quand même de respecter les ordres qui leur sont donnés, puis soyez très vigilants, puis si vous devez partir, partez. Il avait été bien correct au début de la semaine dans ses débuts, mais c'est quand il est parti sur Twitter sur son histoire de la gestion de Porto Rico.
Ça part souvent sur Twitter, justement. Ouais. C'est là un peu que ça dérape, comme on peut dire. Alors, on se demande justement pourquoi il s'est acharné là-dessus. Il y a un bilan qui est sorti de l'ouragan Maria. Il était même pas obligé de faire cette espèce de sortie en disant non seulement je me donne A+ pour la gestion, mais c'est pas vrai qu'il y a eu 3000 morts. Alors, deux études universitaires qui parlent une de 3000 et l'autre de 4000 morts. Alors, on a même pris l'étude qui était la moins, je dirais, alarmiste des deux. Et pourquoi il y a autant de morts après l'ouragan Maria? C'était à Porto Rico il y a un an à peu près, jour pour jour. Mm-hmm. Et c'était une île qui était sur un territoire américain. Il était complètement isolé. Pas d'électricité en moyenne pendant 84 jours. Pas de réseau cellulaire. Pas d'eau potable. Vraiment des gens qui étaient complètement isolés, laissés à eux-mêmes. Il faut imaginer, là, pas d'eau, pas de réseau hospitalier, pas de service. C'est certain qu'il y a des morts qui découlent de l'ouragan parce que les gens avaient des bactéries, ils étaient malades, ils avaient besoin de secours et il n'y avait pas ce secours qui était là.
Et c'est un territoire qui en arrache financièrement là, depuis qui a vu son indice de pauvreté augmenter de façon assez spectaculaire dans les dernières années. Financièrement, ils sont pratiquement en banqueroute à Porto Rico. Il faut dire aussi que les derniers qui ont été rebranchés, c'est au mois d'août, là.
Exactement.
Pour l'électricité.
Et on faisait le parallèle en disant qu'en Floride, ça prenait à peu près 24 heures pour donner le courant après le passage d'un ouragan. Alors, on se dit, on est des citoyens américains. Oui, on est un peu à part. On a un autre type de territoire. On n'est pas un État américain comme tel. Mais oui, on est citoyens. Vous dites qu'on est des citoyens américains. On n'a pas notre indépendance. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas la même aide? Pourquoi on se fait laisser de côté? Et surtout, pourquoi on se fait dire que non, il n'y a pas 3000 morts et c'est de la faute des autres, pas de la faute du gouvernement américain, que ces gens-là ont été laissés à eux-mêmes? Alors, il y a beaucoup de frustration. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Portoricains qui ont quitté le territoire et qui sont installés maintenant en Floride. Okay. Et il y aura des élections en novembre. Alors, je ne pense pas que ces gens-là vont être très, très contents.
Mais dis-moi, FEMA, là, qui est l'organisme de l'espèce de sécurité civile qui s'occupe en cas de catastrophe, fait une couple de fois qu'ils se font cibler en disant que leur réponse a été inadéquate. T'sais, je pense à Katrina, ça a été le bout du bout. Mais après ça, il y a l'année passée aussi, quand c'est le Texas qui a été touché, la réponse était mitigée. Puis pour Maria, ça a été la même chose.
On se disait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été préparé quand on voit qu'un monstre, un ouragan comme ça qui arrive? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mieux préparé aux États-Unis? Et je voyais sur Twitter, justement, Donald Trump qui citait le directeur de FEMA en disant que jamais un président nous a autant aidé, autant appuyé. Mais ce directeur-là, il a été nommé pendant le mandat de Trump en 2017. Alors, c'est un petit peu spécial tout ce qui se passe. Et il faut se rappeler, on peut revenir à George W. Bush pour faire un parallèle parce que je pense que ça vaut la peine de le faire parce que Bush a été critiqué. On disait que c'est le début de la fin pour lui.
Ouais.
Lorsqu'il y a eu l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans qui était sous l'eau, plus de 1000 morts. Et lui qui avait resté à son ranch, par la suite, il avait survolé avec Air Force One le désastre. Ça avait pris le plus de 10 jours pour se rendre sur place. Ça le hante encore aujourd'hui. Alors vraiment, pour un président américain, c'est important de bien réagir lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Surtout, comme c'est le cas Katrina, on parle de population pauvre, des Afro-Américains. Cette fois-ci, à Porto Rico, on parle des gens aussi c'est comme si on les traitait de citoyens de deuxième classe, là. Alors, vraiment, ça peut avoir un impact pour la présidence de Trump, je crois.
Parlons, on verra, parce qu'il semble teflon ces temps-ci.
Oui.
Et à preuve, c'est que, on parle de ça. Il y a un livre explosif qui est sorti cette semaine que tu as lu en l'espace de quelques heures à peine.
Oui.
Fear, le livre de Bob Woodward, qui est journaliste qui a été connu, entre autres, pour l'affaire du Watergate.
Une nuit courte qui a valu la peine. C'est un très bon ouvrage. Et je lisais dans des journaux qu'on disait que Trump fait vivre l'industrie du livre aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs livres qui ont été sortis. Je vous dirais que c'est lui qui est le plus crédible. Et d'ailleurs, Trump s'y attaque encore en disant que c'est des ragots, c'est des mensonges. Mais en même temps, d'un autre côté, il fait une chasse aux sorcières pour voir qui sont les sources de Bob Woodward. Alors, pourquoi faire une chasse aux sorcières s'il n'y a pas de vérité là-dedans? C'est la question qu'on se pose. Mais Fur, vraiment, là, pour les gens qui veulent comprendre le mécanisme de politique aux États-Unis, on n'est pas dans le potin, là. On est vraiment dans la politique pure et dure. Et ce qui est frappant, deux choses, c'est comment c'est dysfonctionnel, pas juste pour Donald Trump, mais pour tout son entourage qui se font des guerres de tranchées entre eux pour avoir, faire avancer leur agenda et manipuler le président des États-Unis qui connaît pas ces dossiers. C'est ce qu'on dit là-dedans. Et un moment qui est assez frappant, c'est quand le président dit, bon, ben, on a des problèmes financiers, soit on emprunte ailleurs, on lui dit non, ça va augmenter le déficit si on emprunte d'un autre pays, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste imprimer de l'argent?
Boy,
c'était sa solution.
OK.
Alors ça, c'est un exemple de gestion qu'on se dit, c'est quand même la personne qui est à la tête du plus important pays au monde, le plus puissant, et on le dit qu'il veut pas faire ses devoirs, qu'il veut pas approfondir
lui,
les dossiers.
Que la Chine fait ça, là, tu sais, qu'ils ont gonflé artificiellement la valeur de leur monnaie parce qu'on a fait imprimer des tonnes finalement d'argent.
Et il se dit pourquoi ne pas faire comme la Chine, si c'est ce qu'il croit. Alors okay. c'est assez particulier. Alors vraiment là, c'est un livre qui vaut la peine. On dit qu'il y a 750 000 copies en une journée seulement qui ont été vendues, plus d'un million d'exemplaires d'imprimés. Alors pour ceux qui veulent attendre,
c'est bon, tu sais, pour quelqu'un qui est pas un féru de politique, qui n'est pas chercheur comme toi, là, à
la Je dirais que c'est assez complexe. Il faut aimer la politique américaine. Okay. Avec Fire and Fury, on était vraiment plus dans un peu le potin. Ça se lisait un peu comme un roman. Tandis que lui, on va vraiment dans les différentes agences américaines, dans les services de renseignement. Alors, c'est plus aride comme lecture, mais c'est Bob Woodward, un journaliste émérite qui est très crédible. Et moi, je trouve certain que pour les gens qui s'intéressent à ce qui se passe à la Maison-Blanche, de l'autre côté de la frontière, c'est à lire.
Ça va être en français bientôt, hein, je pense.
Oui, au début du mois de décembre, si je me trompe pas. En France, ça va être un peu avant.
On va parler, on est à deux mois des élections de mi-mandat. Il nous reste à peu près une minute. Tu veux nous faire découvrir certains États qu'on connaît peut-être un peu moins.
Oui.
Allons voir l'Alabama pour commencer.
Alabama, capitale Montgomery, c'est un État du sud des États-Unis. C'est fortement conservateur religieux. Ça a le surnom Heart of Dixie, si vous avez déjà entendu ça. Importante population afro-américaine. Et Alabama, c'est important parce que c'est là qu'il a débuté le mouvement des droits civiques américains, le boycott des autobus Montgomery avec Rosa Parks. Mais on peut aussi, dans les choses un peu plus insolites, visiter l'emblématique plus grosse chaise de bureau au monde, 10 tonnes d'acier, dans la ville d'Anniston. Et la lutte avec les ours, c'est interdit. J'ai fait vérification.
Okay, t'as pas le droit.
C'était fait dans certains États américains. On voulait se battre des hommes contre des ours pour montrer la virilité. Alors, ce n'est pas une fausse nouvelle, une fake news, ça a vraiment existé.
Ben, je peux te dire que ça existait dans certains galas de lutte au Québec aussi.
Oui, bon.
Il y a plusieurs années, là.
Alors, c'est très possible. Sinon, ben, on pourra en voir d'autres, mais Alaska, l'État de Sarah Palin, ancienne gouverneure de l'Alaska, candidate avec John McCain, qui voyait la Russie de sa cour arrière. On pourra en reparler la semaine prochaine.
Mousse douce de bonne vue, en tout cas. Hey, merci beaucoup, Valérie. Salut.
Merci,
à
Mathieu.
À la semaine prochaine. Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, est avec nous. Dans les prochaines minutes, j'aurai un album à vous offrir pour aller voir Richard, pour un album de Richard Séguin. Voilà.